Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Bruno, pardon.
Bonsoir Caroline, effectivement, il y avait un grand blanc, mais je m'appelle pas André, donc...
Bah écoutez, vous êtes très, très bien élevé, comme à l'école, quand on fait l'appel. Voilà, je m'étais trompé, ouais. Voilà. Et, au revoir André, et bonsoir Bruno, alors.
Hein. Bonsoir Caroline. Donc, ça fait longtemps qu'on vous écoute avec mon épouse, et puis ça fait un petit moment que je voulais vous appeler.
Oui.
Parce que j'aurais besoin de votre aide, et puis peut-être l'aide des auditeurs.
Oui.
Je voudrais... je me pose une grande question, en fait, c'est comment accepter son corps lorsqu'il a changé et lorsqu'il est douloureux. Voilà, ça c'est ma grande question.
C'est une question importante et essentielle. Pourquoi il a changé votre corps? Qu'est-ce qui a changé?
Il y a 2 ans, en septembre 2019, j'ai eu un très grave accident.
Oui.
Je me suis retourné avec mon tracteur qui m'a écrasé.
Ah.
Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu que des fractures.
Oui, comme vous dites, vous avez eu, oui. parce que il y a beaucoup d'accidents de tracteurs. Hein.
Oui.
Ah non, mais je vois, enfin moi, dans la presse régionale, et quand je vais en Corrèze, j'en parlais avec mon père encore récemment, qu'est-ce qu'il y a comme agriculteurs qui se font parfois écraser par leur tracteur.
Et puis malheureusement, qui sont dramatiques et fatales.
Oui, donc le tracteur s'est retourné, vous vous êtes retrouvé dessous.
Voilà, enfin il a fait des tonneaux, et puis le premier tonneau, en fait, c'est un tracteur sans cabine. Et puis le premier tonneau, moi je suis passé sous le tracteur, quoi.
Oh là 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 là. Vous avez eu une chance, enfin, oui, d'être là, mais évidemment cassé de partout.
Voilà, donc plus de 20 fractures.
Oh
là. Donc un bassin avec 5 fractures,
oui.
Fracturé devant et derrière, ouvert devant et derrière, 14 fractures de côte et puis fracture de l'omoplate gauche.
Qu'est-ce que vous avez dû souffrir, hein?
Voilà.
Ah oui, parce que rien que les côtes, c'est effroyablement douloureux.
C'est pas ce qui m'a fait le plus mal.
Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal?
Le bassin.
Ah, le bassin.
Oui.
D'accord. Ouais.
Ouais. Le bassin, parce que après, suite à cet accident, j'ai donc passé 2 semaines en réa.
Oui, en plus, oui, c'est ça. Vous aviez été à ce moment-là, vous étiez inconscient et pendant 2 semaines.
Non, j'étais conscient.
Ah, vous étiez conscient. Vous êtes resté conscient.
Oui.
D'accord.
Ouais.
Mais enfin, on avait dû vous donner la dose d'antidouleur. Hein.
Oui, mais j'étais conscient, ce qui n'a pas forcément toujours été une bonne chose, quoi.
En réa.
En réa,
oui. Oui, parce qu'il y a les angoisses là.
Oui, et puis les soins sont compliqués, ouais.
Oui, c'est dur la réanimation.
Oui.
Oui.
Et puis ensuite, les fractures ont été traitées par de l'alitement, donc j'ai passé presque 2 mois allongé sur le dos dans un lit d'hôpital. Après, j'ai recommencé à, j'ai fait du fauteuil, j'ai recommencé à marcher progressivement. Ça s'est fait assez vite parce que j'étais assez sportif.
Ah, d'accord.
Je faisais beaucoup d'équitation en compétition, de la course à pied, du VTT, un petit peu de natation.
Ah oui, donc très sportif.
Ouais, donc c'est ce qui m'a aidé aussi dans l'accident du coup, parce que comme j'avais un corps assez tonique, je pense que ça a dû aider
certainement.
À contenir l'impact, entre guillemets.
Oui. Et dans le mental, parce qu'il y a aussi, alors on parle du corps évidemment, mais vous dites très sportif, peut-être aussi avec un mental qui parfois va avec.
Dans la compétition, avec un mental de compétiteur, même si j'étais pas...
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire.
Mais avec un mental de compétiteur, avec...
Oui.
En course à pied, bon, j'ai 49 ans, mais j'aimais bien aller faire un petit peu de compétition, voilà, attention, mais...
Mais je comprends, dans le bon sens du terme.
Au moins, l'habitude d'être dans l'effort sportif, et puis d'être face à soi-même et face à son corps, et un corps qu'on connaît bien, justement, quand on est sportif.
Oui, en plus, oui. Un corps, qui est un atout, enfin, un outil, et c'est aussi... Alors, c'est les défauts de vos qualités, c'est-à-dire que ce corps sur lequel vous vous appuyez, que vous connaissez bien, sur lequel vous pouviez compter, là, c'est plus difficile. Il répond moins.
Voilà.
Oui.
Et puis, il y a eu des complications. Donc j'avais beaucoup de douleurs et puis on s'est rendu compte en août 2020 qu'en fait il restait une grosse fracture au niveau du bassin, au niveau de l'avant du bassin, et la vessie était incarcérée dedans. Donc j'ai été opéré en Noël de l'année dernière, donc il y a un an, pour une greffe osseuse au niveau du bassin et puis une désincarcération de la vessie.
Mais vous aviez des symptômes au niveau... parce que si vous dites que la vessie est incarcérée dans votre bassin, je ne sais pas...
Alors, au niveau de la vessie, au tout début, quand j'ai recommencé à marcher, en fait, en janvier-février de 2020, il y avait beaucoup de saignements. Ouais.
Ah oui.
Ouais. Et puis donc, il y a eu des cystoscopies, enfin, tout l'arsenal sympathique.
Oui, surtout que c'est compliqué chez l'appareil urinaire masculin. C'est d'autant plus complexe. Oui, vous avez vraiment eu le corps broyé à tous les sens du terme, là.
Alors, j'ai de la chance parce que je marche.
Oui. Vous avez raison, vous avez récupéré l'usage de vos jambes. Et... Oui.
Ça, j'en ai bien conscience. Ouais.
Oui.
Ah ouais. Je marche. Après, je marche pas comme avant.
Bien sûr, mais bon, cet accident, enfin la gravité de cet accident, ça remonte à 2 ans.
Oui, ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. Oui. D'un côté, je me dis que c'est peu par rapport à l'accident, et puis d'un autre côté, je trouve que c'est que les choses vont pas assez vite, quoi. Et mon corps s'est dégradé forcément puisque je fais plus de sport, j'ai dû arrêter de travailler. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai le travail et puis si je le reprendrai comme avant.
Comment faites-vous par rapport
à ça ? Alors, j'ai bénéficié d'un congé longue maladie.
D'accord.
Suite à ce congé longue maladie. En fait, j'ai repris et puis il y a eu le Covid entre deux. Donc, pendant l'épisode du Covid, il y a eu le premier confinement. Donc, en fait, pendant ce temps-là, j'étais en activité, mais je ne travaillais pas, comme beaucoup d'entre nous.
Oui, bien sûr.
Et puis, en fait, quand j'ai vraiment commencé à reprendre le travail de manière plus intime, bon, j'étais en mi-temps thérapeutique.
D'accord. On va continuer à se parler, hein, Bruno. Bien sûr, ce sera après les infos de 23h. Donc, restez bien en ligne avec nous. À tout de suite.
Soucis. Si vous ne voulez pas André, je resterai.
promis. Non, je ne vous appelle plus André.
22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. C'est Parlons-nous, c'est votre moment. Chaque soir de 22h à minuit et demi, une respiration au cœur de la nuit pour me parler en toute quiétude, pour me confier vos inquiétudes, vos doutes. J'ai ma langue qui fourche, vos fragilités, vos espoirs. Je suis là pour vous, à votre écoute, pour vous apporter mon aide. Et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé que je vous invite d'ailleurs également à composer si vous souhaitez donner votre point de vue par rapport à un témoignage, témoigner de votre soutien, partager peut-être votre expérience avec nous. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS en commençant votre message par les 3 lettres RTL, puis vous l'envoyez 64 900 35 centimes par SMS. On lit aussi les commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et on va retrouver Bruno. Merci beaucoup d'avoir patienté pendant les infos, Bruno.
Je vous en prie.
Alors Bruno, vous nous expliquez qu'il y a un peu plus de 2 ans, vous avez été victime d'un très grave accident. Vous étiez sur votre tracteur qui s'est retourné. Résultat, une vingtaine de fractures, 5 fractures du bassin, 14 fractures de côte, un passage de 2 semaines en réanimation, 2 mois allongés sur le dos. Vous êtes quelqu'un de très sportif avant cet accident. D'ailleurs, je me disais, parce que vous parlez de tracteur, mais vous n'êtes pas agriculteur, c'était pas pour
non,
votre métier.
Non. Non, on habite à la campagne, il y a des chevaux à la maison, donc voilà.
Oui. Ah, vous avez vous-même, vous avez des chevaux.
Oui. Mmh.
Vous êtes remonté depuis ou...
Alors, oui, mais un petit peu, quoi, pas...
Bah, oui, oui.
Entre les douleurs du bassin et...
Oui, oui. Oui. Ouais,
ça reste compliqué.
Bien
tu vois,
sûr.
Le problème, c'est que le travail d'un cheval, notamment de compétition, bah, ça demande c'est comme tout, ça demande beaucoup de régularité dans le travail. Donc là, comme je suis pas en capacité et en mesure de proposer cette régularité dans le travail du cheval, bah, ça, c'est compliqué aussi de monter à cheval, quoi.
Et votre épouse, elle est cavalière également?
Oui. Oui.
Oui. Donc elle peut continuer à les faire travailler, à monter.
Oui, alors un petit peu plus parce qu'elle souffre aussi d'un autre handicap, mais.
Ah bon.
Oui, elle est non voyante.
Elle est non voyante et elle est cavalière.
Oui, oui, oui.
Ah oui, ça c'est incroyable. Enfin, j'imagine parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont peur. Il y a des gens d'ailleurs qui ont peur des chevaux. Monter à cheval en étant non voyante, waouh, un sacré mental aussi votre épouse.
Ouais. Oui,
elle,
oui.
Elle est à côté de vous et elle.
Non, justement, je profite de vous appeler parce qu'elle n'est pas à côté de moi ce soir parce qu'elle est en formation.
D'accord. Oui, parce que c'est important aussi le. Vous parliez de. Finalement, comment accepter ce corps, votre ouais. nouveau corps, finalement. Ouais. C'est dur par rapport à ça. Alors, il y a ce corps qui, aujourd'hui, qui auparavant était source de satisfaction.
Tout à fait.
Parce que c'est un corps qui vous procurait du plaisir et aussi dans la compétition, dans la compétition sportive. Vous pouviez vous appuyer dessus. Et aujourd'hui, ce corps, il est plus source de douleur. Alors, on va en parler dans votre rapport à votre propre corps. Et puis, il y a aussi dans le corps, dans le rapport à l'autre, dans le rapport de couple, dans l'intimité. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Dans l'image que vous avez de vous-même aussi.
Oui, c'est ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Puis, ne serait-ce que physiquement, ce corps qui a changé, la perte de masse musculaire,
eh ben
forcément.
Oui, bien sûr.
Petite prise de poids, même si c'est pas énorme, mais voilà, les abdos confondus, machin, enfin, ce corps qui a changé, qui n'était pas comme je l'avais avant, quoi.
Vous l'avez façonné, votre corps, enfin, c'est un outil, vous l'aviez sculpté, finalement.
Oui, sans être...
Oui, vous n'étiez pas...
Sans rentrer dans les excès du culturisme, mais ouais, en tout cas, ouais, et puis un corps que je maîtrisais, quoi.
C'est ça.
Oui, oui.
Et qui est aujourd'hui un corps qui a souffert, qui souffre encore.
Souffre encore
et,
beaucoup.
Et qui en même temps s'est bien battu aussi.
Oui.
Aussi. Parce que je reçois, voyez, un petit message de Fabienne qui dit Bruno est un miraculé.
Oui.
Et d'ailleurs.
Je dis souvent, oui.
Oui. Et vous en êtes conscient.
Oui, j'en suis conscient, mais.
Mais il y a le quotidien, quoi.
Mais voilà, et puis 2 ans après, il y a le quotidien et.
C'est long.
Et c'est long, ouais. Ouais, c'est long parce que c'est tous les jours, quoi. Parce que c'est tous les jours où, alors j'ai réussi à mettre des petites choses en place, hein. Voilà, j'ai repris les cours de guitare. Depuis un mois, je vais à la piscine une fois par semaine.
Oui.
Voilà, bon, je nage tranquillement, bien sûr, mais c'est le but, c'est pas.
Non. La compétition, c'est pour le moment. Reprendre, récupérer.
Ouais, reprendre, se faire plaisir. Trouver du plaisir sans aller dans la douleur. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est à chaque instant. Et ce qui est compliqué, c'est que je peux pas anticiper, prévoir dans ma journée. Je peux pas me dire, par exemple, je me lève ce matin, je vais plutôt bien. Je vais aller monter à cheval. Je suis pas en capacité de me dire ça parce que peut-être que dans une demi-heure j'aurai super mal.
Vous êtes
et en même temps, des fois, ce qui peut paraître complètement idiot, c'est que je me dis, j'en arrive à me dire que parfois les douleurs sont dans la tête, quoi.
Je ne crois pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Je sais pas, parce que je suis tellement dans le dans le doute par rapport à ça. Dans le doute et dans la... et dans la difficulté de m'exprimer aussi par rapport à ça, quoi.
Ah oui.
Ouais. C'est-à-dire que par exemple face à un médecin, j'ai rencontré encore un nouveau médecin il y a quelques semaines de ça là, voilà, pour des examens encore autour du bassin qui a l'air très très bien, parce que j'enchaîne beaucoup de consultations. Je lui ai dit, par exemple, je commence à fatiguer, docteur, il va vouloir m'aider. Quand je dis ça, en fait, cette phrase-là, elle est peut-être toute simple, mais pour moi, elle est lourde de sens. C'est-à-dire que quand je dis qu'il va falloir m'aider, c'est que j'arrive un peu au bout de moi, ce que je peux porter, quoi. Mm. Par exemple, par rapport à la douleur, quand je dis que j'ai mal, ou que je me plains de ma douleur, ou que je peux pas faire des choses à cause de ma douleur, ce qui peut m'arriver en faisant les courses, machin, je m'accroche au caddie, machin. Ça veut dire que pour moi, je suis à 10, quoi.
Oui, au niveau du stade de la douleur, vous êtes à 10. Oui, oui. Et donc ça veut dire que vous prenez beaucoup sur vous et que oui, c'est vraiment quand vous le dites, c'est que vous êtes au bout, quoi.
Oui, tout à fait.
Et comment a réagi ce médecin ?
Lui, très très bien.
Oui, ce qui n'a pas été le cas de tous.
Non, non, malheureusement, non. Non, pas tous, non. Mm. Et puis, en fait, le problème du rapport au corps, j'y ai pensé, là, parce que j'ai pris un petit peu des notes avant de vous appeler.
Oui,
ce soir, et en fait, le problème de ce rapport au corps, en fait, il s'installe c'est difficile à dire parce que je veux pas. Dès qu'on est en réa, en fait.
Oui.
Et pour ça, la réa, c'est. La réa, c'est un endroit qui est très très compliqué quand on est conscient.
Oui, qu'est-ce qui revient là ? Est-ce que.
Bah, parce que, en fait, si vous êtes en réa, c'est que vous êtes en urgence.
Oui.
Moi, en cas. Les 48 premières heures, c'était vraiment l'urgence vitale.
Oui.
Et en fait, vous êtes conscient. Moi, j'ai repris, quand le SAMU m'a transporté, j'étais plus conscient, bien sûr. Mais ensuite, quand j'ai été installé dans mon lit en réa, que j'ai repris conscience, je suis resté conscient quasiment tout le temps. Et en fait, c'est des équipes qui s'affairent autour de vous, comme ça, et ça... Et en fait, vous êtes conscient, vous pouvez vous exprimer, mais votre corps, il ne vous appartient pas, en fait, à ce moment-là. Il ne vous appartient plus, quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Déjà, vous ne pouvez pas agir dessus, enfin, sauf mes bras qui pouvaient bouger, mais voilà. Déjà, moi, je ne pouvais pas agir sur mon corps. Et puis, tout ce qui est soins, toilettes... radio, scanner, tout ce qu'on vous fait passer, machin, vous le subissez, quoi.
Ben, il y a quelque chose, c'est là où les soignants ont un rôle essentiel, parce que même la façon dont une infirmière va donner le bassin à quelqu'un qui n'est pas en état d'aller aux toilettes, qui peut en avoir honte, cela, il y a par un mot, par un regard, on peut lui rendre à cette personne sa dignité ou au contraire la lui ôter.
Tout à fait.
Et c'est vrai que... On mesure pas, enfin, je pense pour toutes les personnes qui vous écoutent et qui se sont un jour retrouvées, peut-être pour des raisons moins graves même, dans un lit d'hôpital, comprennent à quel point, dans ces cas-là, on se sent vulnérable et le fait simplement d'être en position allongée face à, aux valides qui sont debout, à la verticale. Et puis la réanimation, comme vous le dites, c'est un service très particulier parce que les équipes sont... Alors, c'est hyper technique, c'est très efficace, ça faire beaucoup autour des corps, mais sans oublier que ces corps, il y a des êtres humains, il y a des vies en jeu, et puis il y a les machines. C'est bruyant, il y a un service de réa. Il y a des machines, les gens sont reliés à des machines, et il y a effectivement le fait d'être conscient n'est pas toujours une bonne chose, parce qu'il y a les angoisses qui sont là, et pas toujours la possibilité de les exprimer, parce que quand on est en réanimation, en premier lieu, on s'occupe du corps, évidemment, oui, puisqu'on fait, est oui. dans l'urgence. Mais votre témoignage montre à quel point on peut pas soigner le corps comme s'il n'était qu'une machine. Même si à un moment, le corps a besoin de machines pour continuer à vivre, pour sortir de l'urgence. Et je trouve que vous, enfin, les mots que vous dites nous interpellent, puisque au-delà de ça, avec la pandémie que nous traversons, on sait que des personnes vont se retrouver, se retrouvent en réanimation, et vous avez raison de dire que se retrouver dans un service de réanimation, ça laisse des traces ouais. et des séquelles, tant physiques que psychologiques. Ouais. Et il ne faut jamais l'oublier. Parce que, d'abord, vous dites, j'ai du mal à en parler du fonctionnement du corps. Je trouve que vous vous exprimez très bien. Mais peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un endroit pour poser ça. Parce que depuis 2 ans, on s'occupe de, et ce qui est bien normal et logique, on s'occupe de votre corps, il y a de la rééducation, il y a maintenant de la kiné, mais il faudrait toujours proposer aussi un soutien psychologique pour finalement aider les personnes qui ont été blessées dans leur corps, accidentées, à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur tout ce que ça va provoquer en eux comme évocation imaginaire, inconsciente, pour finalement pour ne pas fabriquer en permanence de l'angoisse.
Alors j'ai eu la chance, moi il y avait un service qui venait juste de se créer dans le CHU où j'étais, justement qui s'occupait de trauma au niveau psy, donc qui était un service qui naviguait avec des infirmiers, des médecins de service en service, si vous voulez, et j'ai pu avoir quelques entretiens avec une infirmière de ce service-là, mais ça a été quand même très 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 difficile. Il a fallu que je le réclame plusieurs fois.
Oui, oui, vous voyez.
Ouais, et puis c'était dans ma demande, c'était clairement exprimé, hein. Et il est même arrivé très souvent que pendant que j'étais en entretien avec cette dame-là, qu'on soit où j'évoquais l'accident. Soit dérangé entre guillemets par le corps médical qui parfois venait même interrompre tout brutalement.
Comment cela? Parce qu'il venait chercher l'infirmière avec qui vous parlez?
Non, parce qu'il venait me faire des soins ou me poser quelque chose ou alors je sais pas trop ce qui était géré non plus autour de mon corps, parce que j'ai un rapport très particulier avec mon corps, parce que je ne voulais pas savoir ce que j'avais exactement. Je l'ai su bien après, et c'est ma femme qui me l'a appris. Mais j'ai jamais interrogé les équipes médicales la gravité mon état.
Oui. Aujourd'hui, comment vous l'interprétez avec le recul? Finalement, c'était quoi? Peut-être une défense, une façon de pour tenir, pour vous accrocher.
Et
chacun réagit différemment. Hein,
c'est comme je l'ai fait quand j'ai eu l'accident. En fait, c'est que quand j'ai eu l'accident, je suis resté conscient. J'ai bien compris tout ce qui s'est passé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon épouse, ensuite j'ai eu les pompiers au
c'est
téléphone.
C'est vous qui avez appelé
Ouais. Et en fait, j'ai...
Vous étiez en mode survie, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Mais c'est un mode que je connais, entre guillemets. Pour des expériences antérieures, c'est le mode survie, c'est quelque chose que je... Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'accident... Alors j'ai tout entendu, j'ai entendu mon corps se briser, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que c'était terminé entre guillemets, donc les quelques secondes où il y a tout ce fracas,
oui.
en fait j'ai coupé la douleur au niveau de mon cou. Et vous voyez, quand je vous dis ça, je vous pose la main au niveau de mon cou. Et en fait, pour moi, donc je suis passé en mode survie. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Attraper mon téléphone, récupérer mes lunettes. Mes lunettes sont là, je peux prendre mon téléphone, j'ai du réseau, je peux appeler qui j'appelle, comment je gère. Et en fait, je me suis mis dans ce mode-là. J'ai complètement coupé avec le reste de mon corps. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai bougé les orteils. Ah, et j'ai bougé les doigts.
Oui.
Et une fois que j'ai eu la certitude que les orteils... Oui. Alors, pas beaucoup, hein, parce que je...
Oui, mais enfin, qu'il n'y avait pas une section de la moelle épinière.
J'ai bougé mes doigts de pied, j'ai bougé mes gros orteils dans mes bottes.
Oui,
Bon, voilà, mode survie, et j'ai coupé avec le reste. Et en fait, c'est bien, mais ce mode de protection, j'ai l'impression qu'il perdure.
C'est-à-dire que vous vous sentez un peu coupé au fond de vos émotions, entre la tête et le corps, quoi.
Alors, je suis capable de volontairement. Par exemple, j'ai eu une injection de toxine botulique il y a quelques semaines. Dans un muscle à l'intérieur du bassin. Pendant cet acte-là, où on est conscient, voilà, je suis capable de complètement couper la douleur avec mon corps.
Oui. Mais du coup, cette capacité à vous couper, à maîtriser, finalement, vous savez, vous aviez cette maîtrise par rapport à votre corps, vous coupe aussi peut-être un peu de quelque chose de vous-même, enfin, d'émotion, de...
Ouais, mais en même temps, ça me coupe de la douleur. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a...
C'est ce qui est compliqué, oui, il y a du positif. Moi, je trouve que vous, enfin, je vous sens pas coupé. Je ressens chez vous un très grand besoin de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, ce qui me paraît ô combien légitime. Je trouve que vous arrivez bien à le faire. Et on est dans la réalité quand vous dites, vous entendez le fracas. Parce que des os qui se brisent, ça fait du bruit.
Oui.
Et vous, vous restez conscient. Et on voit bien à quel point un accident, c'est toujours une épreuve psychologique grave. Que l'on ait ou non des séquelles corporelles. Bon, il se trouve que vous en avez des séquelles corporelles. Mais c'est un accident, c'est une violence qui, bien sûr, va ébranler tout le corps, qui va modifier tous les repères corporels que l'on a, toutes les sensations physiques. Et vous le dites très bien, qui fait qu'on ne retrouve plus son corps, on ne se retrouve plus.
Tout à fait. Ouais.
Et que c'est en permanence une série de découvertes. Et puis c'est surtout la prise de conscience. Qu'on peut être détruit, qu'on peut mourir. Et aussi, ça confronte à une solitude radicale. Et tous les gens qui souffrent dans leur corps peuvent le comprendre. Tous les gens qui sont passés par un service de réanimation, même si les soignants sont là, les équipes en permanence mobilisées 24 heures sur 24, la solitude, elle est radicale dans ces cas-là. Parce que la peur, elle est immense et quand on souffre, c'est parfois indicible. Et donc, vous ne souffrez, quand vous dites parfois j'ai peur que ça soit dans ma tête, moi j'ai envie de vous dire, Bruno, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la douleur qui est physique, parce que compte tenu de l'effraction qui s'est passée dans votre corps, évidemment, oui, il y a des séquelles, la douleur, elle est là. Sur l'échelle de la douleur, vous dites parfois vous êtes à 10, mais il y a aussi une autre douleur et qui est à prendre en considération et qui, celle-là, n'est pas assez prise en considération après un accident, c'est la douleur morale. C'est finalement la difficulté, parce qu'il y a une forme de deuil à faire de celui que l'on était avant l'accident. Et parce que le risque, c'est de ne plus aimer celui que l'on est devenu.
Ah là, en ce moment, je vous appelle parce que c'est compliqué par rapport à
j'entends,
ça.
J'entends cela.
Par exemple, je suis allé à la piscine ce midi. En maillot de bain, je ne suis pas à l'aise.
Oui.
Et alors, il n'y a rien de... Il n'y a rien de catastrophique, mais...
Non, mais vous, c'est pas tant le... Alors, il y a le regard des autres, mais c'est le regard que vous portez sur vous-même.
Tout à fait, ouais, ouais. C'est le regard que je porte sur moi.
Comme si vous étiez diminué, comme si... Ouais. Enfin, vous n'aimez pas celui que vous êtes devenu. Et ça, il est important que vous soyez accompagné et soutenu. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, le corps d'un être humain, on ne peut pas le soigner comme une machine. Parce que là, il y a eu une effraction. Et puis vous disiez, je connais la douleur, la maîtrise de la douleur. Ça montre aussi que la violence de l'accident, ça peut se télescoper avec d'autres violences que l'on a subies. Et parfois, dont on ne se souvient plus, il y a plein de choses qui peuvent ressurgir inconsciemment et s'accrocher un peu au présent. Donc il y a plein de choses qui peuvent ressurgir de ce qui nous a fait violence dans un parcours à ce moment-là. D'où la nécessité, mais je dirais impérieuse, d'un accompagnement psychologique qui devrait être systématiquement proposé à toute personne ayant vécu un grave accident corporel. Et là, je pense qu'aujourd'hui, alors évidemment déjà c'est lourd parce qu'il y a tous ces soins, ça vous prend beaucoup de votre temps, mais il ne faut pas faire l'impasse parce qu'on entend ce besoin de parler et c'est d'ailleurs ce qui va aussi vous aider à avancer, à continuer à avancer et à vous retrouver d'ailleurs, hein, à vous retrouver. Il faut que vous trouviez un psychothérapeute, quitte à demander d'ailleurs dans les services où vous êtes suivi ou auprès des kinés, des gens un peu qui vont, enfin compétents, qui vont pouvoir vous accompagner à votre rythme.
Je me demandais si des choses comme l'hypnose ou le MDR pouvaient... pouvez aider dans ces cas-là. J'ai déjà fait une séance de MDR avec un psychiatre que je voyais, et puis qui malheureusement a déménagé.
Oui.
Ça n'a pas été très concluant, mais peut-être parce qu'on se connaissait trop déjà.
D'accord.
Je ne sais pas. Enfin, j'ai trouvé ça. Déjà, j'ai trouvé ça au point de vue oculaire très très fatigant.
Oui, oui.
Et en fait, c'est
c'est
la fatigue oculaire qui a prédominé peut-être trop dans cette...
D'accord. Et l'hypnose, quelque chose qui... Enfin, que vous aimeriez expérimenter?
Oui, mais vers quel professionnel se tourner à ce moment-là, quoi?
Alors, ça, il faut que... Enfin, il faudrait demander, je pense, que ça soit votre médecin traitant, ça peut être au kiné, enfin, au médecin qui vous suive. Le médecin traitant peut connaître aussi un bon thérapeute qui pratique l'hypnothérapie. Il faut voir si vous êtes réceptif ou pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et derrière cela, vous avez beaucoup de choses à dire.
Oui.
Et en tout cas, je trouve ça très bien que... Enfin, vous voyez, ça fait déjà 2 ans et vous avez besoin là d'un accompagnement. Enfin, vous portez ça en vous depuis tout ce temps. C'est lourd.
C'est lourd.
Et que la reconstruction, elle est à la fois physique et vous revenez de très loin. Et il y a certainement aussi tout votre parcours, votre volonté, ce corps aussi que vous connaissez bien, qui était sportif, entraîné, qui participe aussi. C'est important, oui, que vous ayez parallèlement un soutien psychologique dans le cadre d'une thérapie qui vous paraisse la plus appropriée pour vous. Vous voyez ? Donc pourquoi pas ? Vous pouvez demander aux professionnels, enfin autour de vous, je vous dis, ça peut être votre médecin traitant. Les médecins travaillent beaucoup en réseau avec des psys, et même les kinés. Donc vous pouvez demander. Il y a Frésia qui dit l'hypnose ericksonienne, peut-être, oui. Moi, j'avais une prof à la fac que j'aimais beaucoup, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, qui pratiquait l'hypnose ericksonienne. Je trouve qu'effectivement, sur le plan thérapeutique, c'est une excellente méthode. Il y a beaucoup aussi de messages qui arrivent pour vous. Il y a Bambi qui vous comprend parce qu'elle dit « J'ai eu ce sentiment d'être dépossédée de mon corps après plusieurs interventions. Le confier, entre guillemets, pour des massages et soins dans le cadre de cure et la thérapie m'ont réconciliée avec lui. Courage et force à vous, Bambi, qui parlait effectivement, elle dit, elle a fait de la balnéothérapie. Après, il peut y avoir des cures, oui, dans, qui peuvent être aussi une façon de se plonger dans une bulle et de renouer finalement, de réapprivoiser ce corps et de le traiter avec douceur finalement, parce qu'il est là, il lutte avec vous aussi. Il y a quelqu'un qui dit, ça fait 40 ans que j'ai eu un grave accident de la route, je suis paraplégique depuis, avec beaucoup de douleurs, des douleurs neuropathiques. Je devais être prof de gym quand cela m'est arrivé, et cette personne dit, un, ne jamais pactiser avec la douleur, deux, vous n'inventez pas la douleur, et trois, alors je ne sais pas ce que c'est, elle dit faire de la MBS, je ne sais pas ce que c'est, appelez-nous dans ces cas-là, 09 69 39 10 11, parce que je ne sais pas ce que c'est malheureusement. Il y a Evelyne de Lisieux qui revient sur la réanimation, elle dit, je vous comprends tellement Bruno. Je suis restée un mois en service réanimation pour mon fils. C'est dur, c'est tellement dur que j'en avais perdu 15 kilos en un mois, mais... Le service de Réa, c'est aussi une équipe formidable et compréhensive et qui fait bloc autour de nous. Plein de courage à vous. Et beaucoup de personnes qui disent que vous êtes vraiment un miraculé. Mais il y a la violence. Il y a la violence physique et il y a la violence psychologique. Et ça, je vous le répète, on ne le prend pas assez en considération. Et c'est bien. Oui, il est grand temps de vous en occuper, Bruno. Paul, j'imagine que aussi les auditeurs réagissent sur la page Facebook.
Exactement. Il y a Christiane, justement, qui parlait des douleurs aussi bien physiques que morales. Elle dit, quel courage, quel sang-froid, votre récit est glaçant, mais quel calme et quelle précision dans votre façon de raconter votre histoire.
De la maîtrise.
Exactement.
Oui, peut-être, à certains moments.
Et Jacques, vous êtes d'une grande dignité, mais vous devez réaligner votre amour propre avec votre nouvelle enveloppe. Le temps, votre force mentale vous feront accepter votre nouvelle condition physique. Continuez à vous battre. Il y a Marie-Thérèse qui écrit que son amoureux agriculteur, ancien moniteur sportif, bien plus âgé que vous, a eu un accident grave. Je pense comprendre plusieurs choses, dit Marie-Thérèse. Vous avez l'habitude de beaucoup prendre sur vous. Et c'est bien plus difficile qu'une compétition de sport que d'accepter qu'un corps lâche un peu. N'ayez pas peur non plus de moins bien accompagner votre femme. Vous lui apportez votre force de caractère. Elle vous apporte l'expérience de vivre avec un corps qui a un souci. Mais soyez patient. Votre excellente condition physique vous aide. Alors, elle note juste que elle, son amoureux, elle le trouvait pas tant. Et pour vous donner note d'espoir, il a réussi à tout vivre à nouveau. Quand parfois il a mal, il l'accepte plutôt que de se révolter. Et le reste du temps, il vit absolument normalement. Avec le temps, ça peut revenir. Il y a le valet de cœur qui dit, face à votre épreuve, 2 ans, c'est très long et à la fois, c'est très court.
Il a raison.
Vous avez conservé le plus puissant des médicaments, l'humour. La douleur ne restera pas, mais ce que vous êtes profondément restera bien là. Vous vous retrouverez, vous forcez le respect, jeune homme, écrit le valet de cœur. Et Audrey, qui se reconnaît dans votre témoignage, comprend votre traumatisme. Les douleurs sont parfois insupportables. Il est difficile d'avoir mal toute la journée. Et l'hôpital, parce qu'on parle beaucoup de réanimation depuis un an et demi, mais on banalise presque la réanimation.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais
enfin,
l'hôpital, c'est très très difficile à vivre.
La réanimation, on ne mesure pas à quel point, effectivement... sur un plan physique et psychologique, la récupération est longue.
Et peut-être que vous pourriez écrire pour vous libérer de toutes vos angoisses. Et elle dit aussi que le Reiki l'a beaucoup aidé.
Oui.
On en a parlé aussi, ouais.
En tout cas, chercher... Oui, pardon, Bruno.
Ce qui a été compliqué dans mon rapport au corps, c'est que pendant... jusqu'à... Il y a quelques mois, en fait, je refusais qu'on me touche. C'est-à-dire que c'était tellement mon corps était tellement douloureux, c'était tellement compliqué à gérer pour moi que kiné, ostéo, tout ça, c'était hors de question. Et là, j'arrive à aller chez l'ostéo, chez le kiné, mais ce qui a surpris l'ostéo lors de la dernière séance qu'on a fait ensemble. C'est que c'est le décalage qu'il y a entre le fait que j'arrive, alors je lui ai expliqué parce que j'avais énormément confiance en elle, le décalage qu'il y a entre ce que je ressens, les craintes que j'ai, la peur que j'ai, les douleurs que j'ai et l'état physique où elle me dit parfois votre corps il est très souple, très très malléable, c'est très agréable de travailler sur vous.
Ah oui.
C'est C'est-à-dire que à nouveau, j'ai l'impression qu'on repart dans ce truc où je suis capable. Alors, c'est paraît peut-être idiot de le dire comme ça, mais fort entre guillemets, et je coupe avec mon corps et je ne ressentirai pas les messages de douleur qu'il m'envoie. Alors, c'est assez complexe.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise. Vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez.
Oui,
et cette maîtrise a été un atout. Et par moments, elle se retourne contre vous.
Oui.
Parce que, et c'est pour ça peut-être que vous êtes tenté par l'hypnose, comme si par ce biais, vous pouviez un peu lâcher, qu'on vous aide à lâcher.
Oui.
Voyez, comme si de vous-même, vous êtes tellement dans le contrôle et qu'il y a besoin de lâcher. Parce qu'encore une fois, ce contrôle que vous exercez sur votre corps, on peut moins l'exercer sur le mental. En tout cas, c'est au prix d'angoisse. Donc même si vous avez un sacré mental, comme dit Frésia, il y a une violence qui a été aussi qui s'exprime aussi sur le plan psychologique. Et puis derrière ça, il y a la peur aussi. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a eu la peur de mourir.
Ouais.
Vous vous êtes coupé à un moment, vous appelez vous-même les secours, vous coupez pour pas souffrir, mais en même temps, votre psychisme, il a assimilé tout ça. Et on sent à quel point, quand la parole se dénoue, vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a l'homme au camélia qui dit la réanimation, c'est aussi une renaissance. Et quand on vient au monde ou quand on renaît, on est très vulnérable à la fois sur le plan du corps et sur le plan de la tête. Il faut réapprivoiser ce corps dont on hérite dans cette vie, qu'on hérite comme un cadeau, mais parfois aussi comme un fardeau. Donc oui, vous avez raison, Bruno, de trouver de l'aide, vraiment de vous faire accompagner pour exprimer tout ce que vous ressentez, là, sur le plan aussi psychique. Alors, je remercie la personne qui explique ce que c'est que le MBS 5000 médical. C'est unité de thérapie par bio-résonance, douleur articulaire, inflammation, problème, voilà. On a la traduction, merci à cette personne et bon courage à elle. Et plein de... Je veux pas dire plein de courage parce que vous en avez tellement, plein de force, vraiment. Et parlez, faites-vous accompagner. C'est absolument nécessaire. Vous avez raison. Et merci d'avoir témoigné parce que ça a permis de dire beaucoup de choses autour de ce qu'un accident et qu'un passage en réanimation peut induire comme effet aussi psychologique.
Oui.
Merci Bruno.
Merci à vous, Caroline.
De votre appel.
Merci aux auditeurs.
Au revoir.
Merci, au revoir.